La scientifique que nous allons recevoir dans un instant est professeure de biologie moléculaire. Son nom est Anna Soto. On lui doit d'avoir mis en évidence l'impact des perturbateurs endocriniens dans une vaste gamme de produits chimiques. Une découverte très importante puisqu'Anna Soto a montré que des substances synthétiques présentes donc dans les produits les plus bénins et les plus courants sont en mesure de perturber les hormones. C'est cette découverte qui a permis l'interdiction du bisphénol A dans les contenants alimentaires en France. Cette scientifique lanceuse d'alerte est notre invitée dans un instant et vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le programme de votre chronique dans un instant.
Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour, et tant pis pour l'écologie ou presque.
Dans la deuxième demi-heure, le reportage de la semaine en Méditerranée avec Maude de Carpentier qui s'intéresse aujourd'hui au trafic maritime et à la pollution qu'il engendre. Vos solutions pour la planète, Céline, une enseignante, va nous parler d'un projet pour réhabiliter les mal-aimés de la nature. Et puis enfin, notre invité découverte, Éric Poincelet, est président de Pollutrack. C'est un instrument qui permet de connaître la qualité de l'air à Paris. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Céline Hilla, avec à la technique Charles Leca et Loïc Frapsos.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Anna Soto.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue à vous. Vous êtes endocrinologue, professeur donc de biologie moléculaire, entre autres à l'université Tufts. C'est comme ça qu'on prononce.
Oui, c'est Tufts.
À Boston, aux États-Unis. Oui. Et vous êtes en France actuellement à l'occasion d'une conférence qui sera organisée après-demain à la mairie du 10e arrondissement autour du cancer du sein. Alors, je le disais tout à l'heure, vous faites partie des quelques scientifiques dans le monde qui sont à l'origine de la découverte des mécanismes d'action des perturbateurs endocriniens, notamment le rôle du bisphénol A. Découverte très importante car elle a révélé donc l'action à faible dose de ces substances chimiques. Racontez-nous d'abord dans quelles circonstances vous avez découvert l'action des perturbateurs endocriniens. Je crois que c'était en 1988, par le plus grand des hasards.
Oui, bien sûr. On était en train de purifier une substance de sérum, du sérum humain, parce qu'on étudiait, et on étudie encore, la prolifération des cellules de la glande mammaire et aussi le cancer du sein. Mais bon, on essayait de tester quelles étaient les protéines du sérum qui inhibaient la prolifération cellulaire. Donc, on faisait un balayage de fractions en utilisant une petite essai qui consistait à c'est un essai où on comparait les cellules sans estrogène avec estrogène. Il y avait une différence énorme de numéro de cellules. Bon, le nombre était extraordinaire. Une augmentation de 6 fois. Bon.
Ouais.
Un jour, on commence à observer que toutes les cellules, même les témoins, proliféraient beaucoup. Et donc, on a pensé une contamination aux estrogènes.
Oui.
Et on commence à chercher d'où ce que les estrogènes venaient.
Ouais. Ah,
bon, ça c'était compliqué. On a passé 4 mois à essayant chaque composant et chaque instrument qu'on utilisait pour faire la culture cellulaire, c'est-à-dire les pipettes, les tubes de centrifuges.
Tout y est passé.
Tout. Et donc, un par un.
Ouais.
Et donc, finalement, on trouve que ça venait des tubes à plastique où on gardait des composants milliers de cultures.
Donc, ce sont ces tubes en plastique qui ont contaminé les cellules que vous étiez en train d'étudier, en fait.
Ah, hein. Oui, exactement. Ouais. Et donc, on appelle la compagnie qui produit ces tubes à plastique. Et on demande pourquoi.
Ouais.
Il dit, bah, je vous envoie, on n'a jamais entendu une telle chose.
Ouais. On est en 87-88 à ce moment-là.
Oui. C'était 87.
Ouais.
Et bon, il nous envoie des lots différents. Et 10 jours plus tard, on dit bon, qu'on les trouvait dans quelques-uns et non dans les autres, sont venus immédiatement parce que on pouvait raconter le moment, en faisant l'essai, le moment où on a changé la formule de plastique.
Ouais. Et là, ça ne donnait plus du tout les mêmes résultats sur vos cellules.
Exact.
Ouais.
Mais si on utilisait
les tubes en plastique
de l'eau produit avant, tout marchait normalement. Bon.
Ouais. Donc ça, c'est une sacrée découverte quand même. Parce que ça choque tout le monde finalement, c'est totalement inattendu. C'est la première fois qu'on met le doigt justement sur cet effet délétère du plastique.
Je ne savais pas exactement comment un estrogène pouvait être dans la composition du plastique. Donc on demande, est-ce qu'on peut, vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il y a dedans? Et on a dit, secret de fabrication. Donc une année et demie pour trouver qu'est-ce qu'il avait dedans. Bon. Ouais. Et moi, je suis médecin et je suis, disons pas, je fais la biologie, mais je suis médecin endocrinologue. Donc, je ne savais pas comment est-ce que ça pouvait se passer. Et on commence à étudier la chimie analytique parce qu'on ne peut pas donner les... Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on cherche, on ne donne pas les matériaux aux analytiques. Donc, il faut faire la fractionnation et tout ça, mais aussi... Il faut comprendre la méthode qu'on va utiliser. Et donc, oui, on trouve qu'il s'agissait d'un nonylphénol, que c'est une alkylphénol, et qu'on utilise ça pour faire des détergents, un type de détergent. Aussi, ce détergent, il est utilisé comme spermicide. Et... Bon, dans les condoms et les crèmes pour
dans les préservatifs. Les...
Ouais. Ouais. Comme ça.
Voilà.
Et oh donc, mon Dieu.
Ouais, c'est ça. Donc ça ouvre l'horreur. Effectivement un horizon assez catastrophique.
Parce, parce qu'on est vraiment en contact. C'est les détergents et tout ça. Et maintenant, avec notre petit accident, il se trouve dans les plastiques aussi. On ne sait pas dans quel type de plastique spécifiquement, mais il était ajouté apparemment parce que comme antioxydant, il prévenait la rupture de tubes par la dégradation de polymères à partir de la lumière.
Ouais. Bon. Donc 1987-1988, découverte des effets du plastique sur les hormones. Et puis ensuite, il a fallu définir exactement ce qu'était un perturbateur endocrinien et vous y avez largement participé aussi. Et puis ensuite, de fil en aiguille, justement, il a fallu aussi informer la population parce que vous alliez de découverte en découverte en étudiant justement les effets de ces substances chimiques sur l'organisme.
Précisément, on était invité à Winspread, qui c'était au Colborne, qui avait organisé une réunion. Nous étions 21 parce qu'elle s'est cassé la tête en essayant de comprendre qu'est-ce qui se passait dans les Grands Lacs. Et parce que maintenant, 20 ans avec l'interdiction de DDT, qui on savait déjà qu'il y avait des effets estrogéniques, hormonaux, et de PCB, il avait encore un problème. Mais maintenant, les animaux en lieu de mourir, il pouvait sortir de l'œuf, c'est-à-dire qu'il avait l'éclosion, il y avait des animaux avec des problèmes endocrines.
Ouais.
Et tout le monde les disait, il faut attendre les taux de ces produits qui sont bannis tombent encore plus.
Ouais.
Et notre découvert a dit non, il y a aussi des autres choses qui sont estrogéniques et qui se trouvent dans l'environnement. Parce que ces détergents que je viens de dire, et même ces produits de dégradation, ont été présents, on a trouvé ça dans divers rivières aux États-Unis. Donc, ce morceau d'information était exactement ce qu'elle avait besoin pour dire non, il faut faire la réunion maintenant parce qu'il y a des autres choses.
C'est donc pas... il fallait définir les perturbateurs endocriniens, vraiment véritablement donner une définition aussi à ces substances, et puis arriver à voir sur l'humain aussi ce qui pouvait se passer, parce que là, c'était très important aussi d'imaginer les conséquences de ces substances.
Oui, exactement, mais chez les humains, c'est beaucoup plus difficile que par exemple les DDT, parce que les DDT a une vie moyenne, non, demi-vie. Une demi-vie très longue. C'est-à-dire que si vous êtes exposé, ça reste dans votre organisme pendant des années.
Ouais.
Tandis que les bisphénols A, ils se métabolisent assez rapidement. Mais le problème avec les bisphénols A, c'est qu'on est exposé chaque jour.
Oui, évidemment. Et les enfants et les fœtus sont particulièrement justement sensibles à ces substances. Votre travail, ça a été d'alerter, évidemment. Vous avez fait vraiment aussi ce travail de lanceur d'alerte. On va y revenir avec vous dans un instant. Et puis, évidemment, informer et permettre l'interdiction aussi de ces substances. Ça a été le cas en France avec le bisphénol A dans les contenants alimentaires, on le sait maintenant. Ça n'est pas le cas encore partout, ni même en Europe et encore moins aux États-Unis. Donc il y a une grande disparité entre tous les pays. Hein. Comment se fait-il qu'on n'écoute pas les scientifiques de la même manière ?
Bon, je pense que c'est parce que on vit dans divers régimes politiques. Mmh. On peut dire que en France, on a une idée plus, je dirais, avancée, parce que c'est, on parle pas seulement de la liberté, on parle aussi fraternité, par exemple, liberté
Égalité et fraternité.
Et oui, ce sont trois choses. Ça, c'est très important. Tandis que aux États-Unis, c'est la liberté de l'individu. Donc, pas de fraternité, pas. Bon, ok. Donc, on parle des perturbateurs endocriniens, mais on dit, ok, vous vous débrouillez. Donc, vous essayez de vous exposer. Mais comment on peut faire ça? Tandis qu'ici, on dit, les citoyens qui commencent à être informés, immédiatement, ils ont l'habitude de taper la porte du gouvernement.
Ça, c'est sûr.
Bien sûr. Mmh. Et c'est ça exactement qu'est-ce qu'il faut faire.
Anna Soto, on vous retrouve dans un instant. On en discute avec les auditeurs qui peuvent aussi vous poser tout un tas de questions autour de ces perturbateurs endocriniens. C'est le dossier de cette Terre au carré. Il suffit de nous appeler au standard 01 45 24 7000 et puis également les questions sur les réseaux sociaux et sur franceinter.fr.
France Inter. La Terre au carré.
Camille Cronier, on voyage avec vous aujourd'hui avec cette équation pas toujours facile à résoudre. L'écologie est-elle compatible avec le tourisme de luxe ?
Oui, je suis allée au salon des grands voyages. Soleil, neige, croisière, dit. Regardez Mathieu,
oui,
l'affiche bleu turquoise paradisiaque, ça donne envie. Hein.
Oui.
Ici, c'est du haut de gamme et on va partout.
Alors, je vous fais voyager vers le Canada.
En Écosse.
Au Botswana.
En Afrique australe.
L'Est du Japon.
En Ouzbékistan.
Vietnam.
Aux îles Féroé, en Islande et au Groenland, le tout sur un avion privé.
Corée du Sud.
Nous allons dans les îles Vierges britanniques, dans les Caraïbes.
Tahiti, Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, le Chili et également l'Ouest américain.
Eh ben dis donc, j'ai fait le tour du monde en deux secondes.
Voilà.
Et vive le bilan carbone, mais le tour n'est pas tout à fait complet. Que vois-je sur ce stand ? Une petite peluche toute douce.
Et alors là, nous avons un ours blanc.
Et oui, il y a aussi les pôles nord et sud.
On vend les croisières qui montent sur l'Arctique ou qui descendent en Antarctique. Alors évidemment, il n'y a pas d'ours blanc en Antarctique. Là, on a plutôt des manchots.
Et les croisières polaires sont prises d'assaut. 4 fois plus de bateaux en 10 ans, malgré le budget. Hein, 5 000 euros minimum la semaine au nord et 15 000, je vous ai pris la brochure, Mathieu.
Merci.
Pour 2 semaines de voyage au pôle sud, il y a 1 an d'attente.
Les gens, à l'heure actuelle, sont passionnés par cette urgence de découvrir cette faune sauvage, ces paysages qui sont quand même les dernières terres vierges.
Pourquoi l'urgence ? Parce qu'ils vont tous disparaître ?
Ah bah, c'est ce que pensent un certain nombre de personnes.
Du coup, il y a quelque chose de paradoxal, c'est-à-dire qu'ils vont voir quelque chose qui va disparaître à cause notamment du fait qu'ils y vont.
Mais ça c'est la nature humaine, ça j'y peux absolument rien, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que c'est, on peut penser, on dit, c'est curieux.
Et vous y contribuez en vendant ces croisières du coup, quelque part?
Oui, ben, si vous voulez, j'y contribue, oui, pourquoi pas.
Et puis, elle l'assure, la dame, le tourisme ne perturbe pas la vie sauvage.
C'est pas du tout abîmer ces endroits que d'aller voir les animaux qui vivent là-bas. Au contraire, les gens qui partent là-bas en reviennent revigorés. Ils savent qu'il faut se battre pour que cette nature existe encore. Et c'est en voyant ces choses magnifiques qu'on comprend qu'il faut lutter pour qu'elles existent demain et après-demain.
Voilà, donc vous avez suivi, il faut aller voir ce qu'on contribue à faire mourir pour ne plus le faire mourir après, ces concepts. Un tourisme tragique, selon Greenpeace, rendu possible en plus grâce à la fonte des glaces accélérée en Arctique et en Antarctique. Autre compagnie de croisière polaire.
L'environnement, pour vous, c'est important ?
C'est une priorité. On a des bateaux hybrides qui fonctionnent au fioul léger et à l'électrique. Et quand on va dans des destinations pour aller voir la faune et la flore, la première chose qu'on dit aux passagers, c'est que surtout, il ne faut laisser aucune empreinte.
Mais est-ce que justement, le meilleur moyen de laisser aucune empreinte, c'est juste tout simplement de ne pas y aller ?
C'est tout le paradoxe du tourisme.
Ah, on y vient, la fameuse équation dont vous parliez, Mathieu. Mmh. Alors, certains visiteurs admettent cette incompatibilité.
Je suis dans la contradiction, comme tout le monde.
On adore voyager. Je sais que c'est pas bien, mais bon, on fait quoi ?
Et puis, il y a ceux comme ce couple qui, pardon, s'en tamponnent, mais alors complètement.
Bon, c'est sûr, il y a l'écologie, mais il faut pas non plus nous prendre la tête avec ça. Les gens, ils sont tirés plus de chez eux maintenant.
Tout le monde essaie de culpabiliser tout le monde avec ces histoires-là. Aujourd'hui, on essaie de foutre la trouille à tout le monde. Il faut manger bio, sinon tu vas mourir avec les pesticides. Il faut, enfin bon, bref, autant mourir tout de suite.
Restons sur une note positive. continuez de voyager et ne culpabilisez pas pour ça.
Et c'est quoi alors le prochain voyage?
Ben, ce sera sûrement l'Australie. Alors là, je ne vous raconte pas l'effet carbone, il va y aller. Hein.
Et voilà, au moins c'est assumé. De toute façon, vous savez quoi?
La technologie va trouver les moyens pour rendre les avions un peu moins polluants.
Voilà, comme ça on pourra continuer d'explorer le monde, la conscience tranquille. D'autant que les vrais pollueurs, eh bien, ce sont nous, les individus, pas les transports. C'est en tout cas ce que m'a assuré ce vendeur de croisières de luxe.
On montre du doigt les croisières parce que ce sont des mastodontes, parce que c'est des gros bateaux. Mais la personne qui va jeter du plastique avec sa bouteille de plastique, il est aussi pollueur qu'une compagnie maritime. Okay, imaginez-vous que vous aviez 1 million de personnes, et c'est le cas, qui ne font pas le tri. C'est aussi dangereux qu'un bateau de croisière. Il faut être réaliste.
Alors justement, pour être réaliste, je rappelle 2 études. D'abord, celle du Conseil de l'Arctique, qui a établi que plus de 300 milliards de microplastiques flottent dans les eaux du Grand Nord. Et celle de l'ONG Transport Environment, cette fois au sujet des croisières en Europe. 200 paquebots rejettent 20 fois plus d'oxyde de soufre, l'un des principaux polluants de l'air, que toutes les voitures sur le continent.
Anna Soto, je vous offre le catalogue pour un voyage en Antarctique. Ça vous ferait plaisir ou pas? Je vous voyais beaucoup réagir au sujet. Vous étiez consterné.
Je pense que c'est horrible, bien sûr.
Bon, on va aussi parler d'une chose horrible, ce sont les perturbateurs endocriniens avec vous. Dans un instant, 01 45 24 7000.
Tu sens bon. Mon amour, c'est quoi ton parfum? J'ai l'impression que ça sent la fin, je m'allume une blonde. Tout s'éteint dans tes yeux bleus, clin de façon sans toi, qu'est-ce qui me retient? Laisse-moi 2 secondes. Sentir ton cou avant que ça vrille, avant que le verdict ne tombe. Laisse-moi 2 secondes. 2 secondes. Tu peux m'écrire tous les mots que t'as jamais su me dire. Toi ferme. T'es le terrain, y'a pas de mi-temps, c'est juste la fin, lâche-moi la main. On verra bien si ça se dérobe ou si jamais il te retient. Nous deux c'était rien, non. C'était juste assez pour se faire plus de mal que de bien. Nous deux c'était rien. Nous deux c'était rien.
Rien, c'était Marie-Flore à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Et notre invitée aujourd'hui dans La Terre au carré, Anna Soto, biologiste moléculaire. Et vos questions pour parler des perturbateurs endocriniens, il y en a beaucoup d'ailleurs pour vous, Anna Soto. On va tout de suite accueillir Denis qui nous appelle de l'Oise. Bonjour Denis.
Bonjour à tous.
Merci de poser votre question, on vous écoute.
Oui, alors un constat, effectivement les perturbateurs endocriniens sont partout. Aujourd'hui, nous sommes quotidiennement exposés à des perturbateurs endocriniens puisqu'on peut les retrouver aussi bien dans l'alimentation, pesticides, métaux lourds, aussi bien dans certains comestiques et aussi dans certains plastiques. Alors ma question, ça c'est le constat, j'aimerais poser la question suivante. Est-il de ce possible de se protéger des pesticides? Bien sûr, ils sont présents dans notre environnement, mais nous pouvons considérablement réduire notre niveau d'exposition en fonction des habitudes que nous prenons. Et j'aimerais que notre invité puisse nous évoquer quelques conseils à prendre en termes d'alimentation, d'autres éléments.
Alors, Anna Soto va vous répondre. Comment on peut se protéger justement de ces perturbateurs endocriniens?
Oui, on peut faire des choses, des protections générales. N'utilisez pas de plastique, ne cuisiniez, n'utilisez les micro-ondes et pour mettre là des utiles à plastique. Mais c'est pas assez. À la fin de la journée, vous ne savez pas si vous avez éliminé 5% ou 10% de l'exposition. Donc la meilleure chose, c'est taper la porte des autorités. Il faut légiférer pour vous donner les utiles. Où sont les perturbateurs endocriniens, d'un côté, pour votre et protection individuelle. Et d'un autre côté, il faut avoir des lois qui limitent les expositions. Ici en France, on est heureux qu'il y ait quelques lois qui nous protègent de quelques produits. Donc il faut encore taper l'apport du gouvernement pour obtenir des meilleures mesures protectrices qui vient du gouvernement, disons.
Mais c'est plus facile pour un scientifique d'aller taper à la porte quand même que d'un citoyen, non?
Non, c'est pour ça qu'il y a des associations non gouvernementales qui peuvent aider, comme ici au Réseau Environnement Santé et des autres. Et on peut taper la porte pas seulement de l'État, mais de gouvernement municipal, parce que là, on a beaucoup plus de latitude pour dire on va interdire l'utilisation des pesticides dans les jardins publics, par exemple.
D'accord, donc les maires ou les députés. Alors justement, sur les interdictions, il y a Renaud et Tamara qui se posent des questions sur les réseaux sociaux. Le bisphénol A est interdit, c'est une victoire, mais qu'en est-il des bisphénols B, F et S? Certains disent même que les remplaçants sont pires.
Oui, les remplaçants sont égaux au pire. Ça dépend de comment est-ce que vous mesurez, mais ce n'est pas bien. Bon,
mais on les trouve dans les mêmes contenants ou pas?
Non, on a remplacé le bisphénol A par des autres choses. Mais maintenant, il faut réviser la loi pour mettre à l'intérieur, pas seulement le bisphénol A, mais aussi ces produits qui les remplacent maintenant.
Ouais. Mais c'est terrible finalement, parce que dès qu'on ouvre une faille, on s'aperçoit qu'elle est gigantesque en réalité, que derrière il y a tout un tas de produits qui sont encore pires.
Hein. Oh, il y a égal. Donc il faut mettre cette idée de légiférer et de faire une révision.
Ouais, régulière.
Ça prend du temps.
À fur et à mesure qu'on connaît mieux. Ouais. Bon.
Michel, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour, bienvenue dans la Terre au Carré.
Bonjour. D'abord, merci pour votre émission et merci à Madame Soto pour ses travaux et ses recherches. J'ai une question à poser par rapport au cancer du sein qui affecte beaucoup plus de femmes et beaucoup plus de femmes jeunes, autour de 30 ans. Est-ce que les perturbateurs endocriniens ont un rôle dans la survenue de ces cancers? Merci pour votre réponse.
Anna Soto.
Oui, bien sûr. Et par exemple, on vient de découvrir que le temps de l'exposition au DDT, par exemple, ça détermine l'âge où les cancers vont apparaître. Donc, exposition à des âges comme le nourrisson, disons, ou comme fœtus. Donc, vous aurez un cancer avant la quarantaine, c'est-à-dire pré-ménopausique. Mais si l'exposition a lieu après la puberté, il va devenir, le cancer apparaît à l'âge de la post-ménopause. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il apparaît toujours,
mais plus
à des diverses proportions. C'est pas les 100% de l'humanité qui l'est exposé, bien sûr que non. Mais la proportion, il est plus grand.
Chez les personnes exposées dès l'âge fœtal. Hein.
À l'âge fœtal.
Ouais.
Et il est moins plus tard, mais l'âge de manifestation, elle est différent. Donc, ça peut expliquer pourquoi il apparaît maintenant.
Et ça, le cancer du sein, c'est vraiment l'une des maladies sur laquelle il y a vraiment une corrélation directe entre les perturbateurs endocriniens, justement, et le cancer.
Seulement pour le DDT chez les humains et les distilbènes. Ça, c'est clair, ok. Mais pour les bisphénols A, ça va être beaucoup plus difficile parce que c'est presque impossible de savoir si on était exposé.
Uniquement
on sait si on est exposé aujourd'hui,
mais pas avant.
Les jours qu'on mesure, mais pas avant, pas après, d'un côté. Et l'autre côté, c'est la disons les cocktails des perturbateurs endocriniens divers qui travaillent ensemble. Donc, en mesurant un seul, vous ne savez rien.
À la part des choses.
Mais on fait des manips chez les animaux qui montrent, même les FDA aux États-Unis viennent de montrer que l'exposition, c'est comme l'AMSES ici, a démontré qu'il y a une augmentation significante de cancer de mammaire, chez les rats exposés dans la vie fœtale et avant la puberté.
Catherine, vous êtes en ligne avec nous. Bienvenue au standard de la Terre Carrée. On écoute votre question.
Oui, bonjour. Merci Mathieu pour tout ce que vous faites pour la Terre, pour la tête. C'est vraiment bienvenu. Ma question, allô ?
Oui, on vous entend, Catherine.
Oui. Ma question est la suivante. Je fais partie de cette génération ça ressemble un peu à la question précédente, mais ça concerne pas la même génération. J'ai eu un cancer du sein, j'ai 72 ans. Ma génération est beaucoup marquée par ce cancer du sein. Je voulais savoir si notre programme génétique, qui ne connaissait pas vraiment les perturbateurs endocriniens quand on était très jeune, et pendant longtemps, a-t-il été, est-ce que ces perturbateurs endocriniens ont facilité la venue du cancer chez cette génération qui n'était pas habituée par son programme génétique, par son organisme, à recevoir, à assimiler ces perturbateurs?
Voilà, Anna Soto.
Parmi les cancers du sein, les patients des cancers du sein, il y a seulement 5% qui a quelque chose à voir avec la génétique. Le reste a une relation avec la qualité du tissu de la glande mammaire. On dit si on a une grande densité radiologique, on a un facteur de risque. Si on a une exposition plus grande aux estrogènes endogènes aussi, donc ce qu'on peut dire, c'est que si votre puberté, votre ménopause ont prolongé votre exposition aux estrogènes ovariennes. Et en plus, vous avez été exposé au DDT, au bisphénol A, vous avez plus de chances.
Joël demande sur Facebook si ces polluants restent à vie dans notre corps ou s'ils disparaissent lorsque nous ne sommes plus exposés.
Bon, il y a des produits comme le DDT qui a une vie et une demi-vie très longue, donc ils restent avec nous. Il y a des sortes comme le bisphénol A qui ne restent pas. On est exposé tous les jours, mais chez les animaux qu'on peut exposer exactement à un moment, comme pendant la vie fœtale, j'expose dans la vie fœtale, le bisphénol A disparaît totalement, mais l'animal a augmenté sa propensité au cancer du sein qui va se manifester à l'âge adulte.
Ouais. Donc il y a des effets à long terme.
Exact. Ils changent les structures de la glande mammaire et ils deviennent plus sensible au développement cancéreux.
Et votre découverte a montré, entre autres, Anna Soto, que ces perturbateurs endocriniens agissaient à faible dose. Hein. C'est ça aussi qui est très important dans l'exposition précisément à ces substances.
Oui, parce que c'est l'exposition, c'est le range d'exposition humaine.
Merci beaucoup d'être venu dans la Terre au Carré. Vous serez donc jeudi à 19h à Paris à la salle des fêtes de la mairie du 10e pour une conférence exceptionnelle autour justement du cancer du sein et de l'environnement. C'est la santé environnementale. C'est un thème qui nous intéresse évidemment tous de plus en plus. Merci beaucoup Anna Soto. Bon retour donc aux États-Unis. Merci d'être venu aujourd'hui.
La Terre au carré.
Au menu de cette deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec Céline, une enseignante qui va nous parler d'un projet pour réhabiliter les mal-aimés de la nature. Et ils sont nombreux, on va le voir. Et puis enfin, notre invité découverte sera Éric Poincelet. Il est le président de Pollutrack. C'est un instrument qui permet de connaître la qualité de l'air à Paris. Bonjour Maude de Carpentier.
Bonjour.
On poursuit notre feuilleton de la semaine à Marseille pour parler de la Méditerranée. Et aujourd'hui, vous nous parlez de trafic maritime et de pollution qu'il engendre.
Oui, imaginez 81 millions de tonnes de marchandises, 2 millions de passagers attendus en 2020. Marseille, c'est le premier port de France, le deuxième de Méditerranée. Des chiffres records, synonymes de pollution, puisqu'évidemment, un bateau, ça fonctionne avec du fuel, très lourd, très chargé en soufre. Tout ça, les riverains du port le respirent. C'est le cas de Jean-Pierre et Marie, un couple qui habite le quartier de Mourépiane, dans le 16e arrondissement de Marseille. Une petite maison accrochée à la colline. Balcon avec vue mer, enfin pas tout à fait.
Donc on voit Notre-Dame-de-la-Garde tout là-bas, dans la fumée.
Entre les bateaux, et en général, on arrive à la voir. Mais sinon, c'est comme des immeubles. Le week-end, on peut arriver jusqu'à 11 bateaux, plus les ferries qui passent.
Alors qu'est-ce que vous faites, Marie?
Ben là, je nettoie. Si on veut s'asseoir sur une chaise, on est obligé de la nettoyer à chaque fois qu'on l'utilise. Il y a de la poussière noire avec des particules plus ou moins grosses. Ah, c'est partout. On est obligé de nettoyer en permanence.
Malgré ça, je vois que vous avez des plantes. Ça pousse.
C'est des vivaces. Hein. Celles-là, elles tiennent.
On peut rentrer à l'intérieur ?
Moi, je suis Marie Didot Guérini et j'ai 71 ans.
Héros Jean-Pierre, j'ai 70 ans. Donc, il faut imaginer que ma maison est dans la montée des pêcheurs. C'est une colline en restanque où il y a des maisons. Qu'au bas de cette restanque, il y a une route, le chemin du littoral. Jusqu'à mon adolescence, après ce chemin du littoral, il y avait la mer. Aujourd'hui, eh bien, il y a des entreprises. Ensuite, il y a les grilles qui enferment le port. Et ensuite, il y a le port qui s'étale sur environ 300, 400, 500 mètres jusqu'à la mer. Dans la mer, eh bien, il y a les bateaux qui nous font face.
Depuis quand vous avez l'impression de la subir, cette pollution ?
Depuis environ, on va dire, 5 ans, il y a eu une augmentation extrêmement importante des bateaux de croisière. Excusez-moi. C'est là que les ennuis ont commencé. Les ennuis de santé pour la population des riverains. Dans mon entourage immédiat, il y a un certain nombre de morts et de malades. En premier, qui a été touché, c'est mon amie d'enfance, Hélène. Elle est décédée. Sa sœur.
Toutes les deux des cancers des voies respiratoires aussi ?
Oui. Il y a Gisèle, cancer de la gorge. Ensuite, il y a eu moi, cancer de la gorge. En même temps, il y a eu ma sœur qui est décédée, elle. On fait partie d'une association qui s'appelle Cap au Nord pour l'environnement. Dans ces personnes-là, on avait compté pas loin d'un tiers qui était malade. Et je me dis qu'il est impossible que ce soit que mon cercle amical. Allez.
Au revoir. Alors, pour me rendre compte de cette pollution dont parlent Jean-Pierre et Marie, je vais visiter le grand port maritime de Marseille, le GPMM, et je fais la visite avec toute une équipe du port, et je la fais en bateau.
On est dans les bassins, ce qu'on appelle historique de la Joliette, où le port a commencé.
Jean-François Astuas, pilote maritime et président du club de la croisière Marseille-Provence.
Et après, on va entrer dans un espace qui est lié plutôt aux marchandises pour retrouver au nord les croisières.
Est-ce que là, on est encore pas très loin du vieux port? Il y a le terminal des ferries, il est dans la ville.
On peut dire ça comme ça, oui. Je suis Stéphane Reich, je suis délégué général au Grand Port Maritime de Marseille.
On a vu 3 ou 4 ferries tout à l'heure. Là, il y avait un roulier, Corsica Linea. Celui qui a dégagé la grosse fumée noire tout à l'heure.
On ralentit, tu restop et on l'éteint carrément.
Moi, je suis ici évidemment pour parler surtout de pollution. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui sort d'un bateau ? C'est quoi ces fumées noires qu'on voit ?
C'est exactement les mêmes que sur votre voiture, sauf que sur un bateau, le moteur est plus gros, le combustible est légèrement différent, et donc à certaines allures, tout le combustible n'est pas bien brûlé, donc il y a une partie qui va sortir sous forme de grosses suies. Vous avez des NOx, des SOx, c'est-à-dire du soufre, de l'azote, et du CO2 et des particules. Donc à nous de les éliminer, à nous d'avoir des solutions dans le maritime.
Vous avez pu le voir en arrivant, on est passé à côté de la Méridionale qui depuis 2 ans et demi maintenant se connecte tous les jours lorsque le ferry est à quai. Ça permet de couper les moteurs complètement. Il n'y a plus aucune fumée qui sort des cheminées à ce moment-là. Cette solution d'avant-garde, en fait, on va la généraliser progressivement.
De façon technique, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ça prend autant de temps ?
C'est un... un projet avec plusieurs dimensions. Il faut électrifier les quais, bien sûr, mais il faut aussi convaincre en parallèle les armateurs de s'équiper d'une façon compatible. Il y a le réseau électrique qu'il faut renforcer. On va passer de 10 MW à 50 MW. C'est énorme. Le port tout seul n'est pas capable de résoudre le problème. Il faut qu'un dialogue constructif se mette en place avec les... Enfin, qui est déjà en place, hein, mais qui s'accélère avec les armateurs qui escalent leurs bateaux ici.
Alors là, on l'entend, Maud, le port de Marseille se veut rassurant et promet que 100% des quais seront électrifiés d'ici 2025.
Hein. Oui, en attendant seulement, les riverains, eux, sont malades aujourd'hui. Évidemment, il est impossible d'établir un lien entre la pollution des bateaux et les maladies, dont parle Jean-Pierre. L'Agence régionale de santé reconnaît simplement un environnement qui favorise les risques sanitaires. Par ailleurs, j'ai rencontré deux médecins du quartier qui m'ont confirmé avoir constaté une hausse des maladies respiratoires. L'un d'eux parle tout de même d'une augmentation de 15% ces 5 dernières années.
Maud de Carpentier, merci beaucoup. On vous retrouve demain, prochain reportage.
Et oui, on assistera à une simulation d'analyse d'eau de mer avec des enfants. Et pas sûr que vous ayez toujours envie de vous baigner après, Mathieu.
Eh bien, on en parlera demain. Merci beaucoup.
France Inter. La Terre au carré. Vos solutions pour la planète.
Céline, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Bienvenue à vous. Vous habitez Lille. Vous êtes enseignante en maternelle. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas avec vos petits là ? Ils font la sieste ? Qu'est-ce qu'ils font ?
Non, j'ai la chance de travailler à 75%.
Très bien. Alors, vous avez le temps de vous occuper de votre autre casquette, celle de présidente de la fédération CPN. C'est Connaître et Protéger la Nature. Ce sont les fameux clubs nature, on peut résumer les choses comme ça ?
Oui, tout à fait. Ce sont des clubs et des familles nature qui sont un peu partout en France. C'est aussi... en Afrique de l'Ouest, depuis plus de 30 ans maintenant, et c'est l'initiative de Pierre Déhomme, fondateur du célèbre journal de la Hulotte, qui fait le lien entre ces clubs nature.
Alors faites-moi plaisir, parlez-moi juste deux secondes comme ça de la Hulotte, cette revue que j'aime tant, dont on avait d'ailleurs fêté le centième numéro il y a quelques années avec Pierre Déhomme. Il a commencé en Ardèche, hein, c'est ça ?
Plutôt en Ardennes,
dans les Ardennes, c'est ça, absolument.
Donc oui, en 1972, Pierre Déhomme est un instituteur et avait un Adrien bien rêveur. Et puis lui-même était naturaliste et il a eu l'idée de faire des clubs nature qui dans les classes. Et puis ça s'est petit à petit, il a essaimé cette idée. Et puis il y a des bandes de copains, d'ados, de jeunes qui ont créé ces clubs nature un peu partout en France.
Alors l'esprit, c'est quoi exactement ? Parce que vous êtes nombreux maintenant, il y a combien ? 700 clubs à peu près ?
Oui, 700 clubs et familles en France et puis... en Europe, en Belgique, en Roumanie, en Afrique, Madagascar même.
Alors le but c'est quoi ? C'est de vraiment de faire aimer la nature, le milieu, les milieux naturels à tout le monde, quoi. C'est ça, hein ?
Voilà, c'est ça, apprendre à mieux la connaître, notre nature de proximité, la comprendre, la tolérer, vivre avec tout ça, et puis faire partie de l'intégrance à la nature. Et puis dans l'exemple, il y a souvent un passeur, hein, c'est un passionné... quelqu'un qui a un petit peu plus de connaissances que les autres, puis qui va s'y mettre, un enseignant, un parent, et la fédération l'accompagne, ce passeur de nature, avec ses outils, à emmener des petits groupes dehors et se reconnecter à cette nature. Parce qu'on a, comme vous l'avez bien évoqué dans des émissions précédentes, on a réellement, on a perdu ce lien avec cette nature.
Ah oui, j'allais justement vous poser la question, les enfants aujourd'hui n'aiment pas, entre guillemets, naturellement la nature ?
Disons qu'ils y sont plus habitués, hein, parce que c'est vrai qu'avant, on rentrait de l'école, on passait par les chemins de traverse, on ramenait un bouquet de fleurs des champs à sa maman. Et puis maintenant, les chemins sont bétonnés, sécurisés, les cours de récréation aussi. Donc même s'ils ont tendance encore à nous ramener des petits bêtes qu'on peut observer avec eux et puis à apprendre à mieux les connaître, ces petites bêtes qui nous ramènent, eux, avec moins d'a priori que nous, souvent.
Alors Céline, on en a parlé d'ailleurs dans l'émission, il y a même des syndromes justement autour de cette déconnexion à la nature. C'est la raison pour laquelle finalement vous avez réfléchi avec la Fédération à cette nouvelle campagne là, que vous avez lancée début septembre qui s'appelle « Les mal-aimés, j'adore », c'est ça ? Ça correspond aussi à cette volonté de pouvoir reconnecter les enfants ?
Oui, les enfants, les adultes aussi, parce que en fait, les neurobiologistes, ils estiment qu'une fois qu'on a surmonté notre peur, on peut la faire très facilement disparaître et on peut finalement s'émerveiller très rapidement de ce qui est autour de nous, qu'on méconnaît. Alors les mal-aimés de la nature, c'est tous les gluants, les rampants, les piquants, tout ce qui nous embête au quotidien. Et puis, je sais pas vous Mathieu, quel est votre mal-aimé préféré ?
Oh, moi j'aime bien tout, même les serpents, ça me dérange pas trop finalement, ouais. Mais enfin, on va dire les serpents.
Comment?
Quand même. Non, les serpents, oui, allez. Et vous, Camille?
Moi, j'ai une phobie des punaises. Ah, c'est terrible, vraiment, depuis que je suis toute petite. J'ai du mal à me reconnecter avec, je crois.
Donc Céline, le travail, c'est ça? C'est de faire en sorte d'aller confronter ses peurs et de pouvoir devenir un ambassadeur ensuite de ces animaux qu'on n'aime pas, a priori?
C'est ça, on invite tous les petits CPN à aller à la rencontre de leurs proches pour un petit peu les interviewer et puis après de mener l'enquête pour mieux connaître l'espèce qui est méconnue et qui fait un petit peu peur et d'apprendre à l'observer, à comprendre qu'elle fait partie d'un écosystème et qu'elle est complètement nécessaire et puis que même elle peut avoir plus que même toute sa place, elle peut être assez merveilleuse. Souvent ça repose nos peurs, elles reposent aussi sur des légendes, hein. On racontait aux jeunes filles qu'il ne fallait pas qu'elles rentrent le soir par les bois parce que les chauves-souris pourraient s'accrocher à leurs cheveux. Ouais. En fait, c'est surtout qu'on ne voulait pas qu'elles rentrent par les bois et qu'elles rentrent trop tard.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Et alors, on peut même exposer ces plantes, hein, c'est-à-dire qu'il y a les animaux, il y a aussi les plantes. Il y a vraiment des plantes qui font peur.
Il y a des plantes qui sont moins appréciées, hein. Notre ami l'ortie, la ronce. Alors que la ronce nous donne des bonnes mûres pour faire des tartes ou des confitures. Donc, il y a des petits personnages qui accompagnent la campagne. On a Alphonse la ronce, Aglaé l'araignée, Josie la chauve-souris.
Donc ça, c'est pour les enfants de quel âge à peu près, cette campagne?
Ça s'adresse à tout âge, à partir du moment où le parent ou l'enseignant est motivé, hein, dès 4 ans jusqu'à... Et puis les adultes aussi, certains se regroupent pour faire partie de la campagne et mieux apprendre les petites bêtes qui sont autour de chez eux, ou les végétaux aussi.
Bon, bah Camille, hein, pour confronter votre peur des punaises, vous pouvez aller sur lesmalaimésjadore.org. Vous avez tous les renseignements, et c'est donc cette campagne qui est lancée avec la Fédération Connaître et Protéger la Nature. Merci beaucoup, Céline, d'être venue nous en parler aujourd'hui dans La Terre au Carré. Et puis, de votre côté, si vous avez vous aussi une initiative dont vous souhaitez nous faire part, eh bien, vous passez par le site de l'émission.
Franceinter.fr.
Allez, dans un instant, on va parler d'un instrument qui permet de détecter les particules fines en ville, et pas seulement à Paris d'ailleurs. This dream I'm dreaming, won't you wait? Cause this life I'm living doesn't really feel like mine. This strange dream I'm dreaming, if it ain't wrong, it don't feel right. Never thought never thought I'd have to start again. Somebody wake me up. Don't you wish we were dreaming? Don't you? Somebody wake me up. C'est bien pour l'heure de la sieste, ça. Hein,
c'était agréable.
Dream for Dreaming, c'était Patrick Watson.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Éric Poincelet, bonjour.
Mathieu, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de la société Pollutrack, qui est un instrument, en réalité, qui détecte les particules fines. C'est la mairie de Paris qui a lancé cet outil à la mi-septembre pour nous permettre, ceux qui vivent à Paris, mais pas seulement d'ailleurs, hein, ça concerne aussi les Lillois et bientôt les Marseillais, eh bien, de connaître de façon plus précise la qualité de l'air que nous respirons. Alors, parlez-nous de votre dispositif. Ça consiste en quoi exactement?
Alors, disons qu'on est sorti du bois en septembre, le 17 dernier, septembre, oui. Mais ça fait en fait depuis 2014 qu'on travaille sur ce projet, en toute confidentialité pour passer relativement inaperçu. Donc, en fait, pour vous résumer, c'est un total de 400 voitures, de 400 véhicules qui tournent en permanence dans les rues de Paris. Ce sont à la fois 300 véhicules qui ont été apportés par le groupe l'électricien distributeur d'électricité Enedis, plus Renault qui a ajouté une centaine de Zoé électriques dans le cadre du VTC Marcel. Donc ce sont 400 voitures qui tournent H24, week-end compris, et qui détectent les particules fines qui sont considérées aujourd'hui par le corps médical comme les plus dangereuses pour la santé.
Avec des conducteurs à bord?
Il y a des conducteurs, ils font leur travail normalement, c'est-à-dire en fait le fait d'avoir un boîtier qui fait la taille d'un smartphone sur le toit n'entre pas du tout en considération dans leur travail. Ils font leur travail d'une façon tout à fait aléatoire, comme le ferait un taxi, comme le ferait un distributeur d'électricité. Mmh. Et en fait, on profite de leur trajet aléatoire pour effectivement faire de la capture de particules dans tout Paris.
Donc il y a des petits boîtiers sur le toit de la voiture qui remontent les informations. Ça vous permet de faire une carte des endroits les plus pollués, les moins pollués?
Absolument. Si vous êtes parisien, vous pourrez le voir parce qu'il y en a quand même beaucoup qui tournent en permanence dans Paris. Donc c'est vraiment un tout petit boîtier qui est bleu ou qui est blanc ou qui est noir en fonction de la flotte de véhicules et qui mesure en temps réel. Ce sont des compteurs laser, des micro-capteurs laser qui mesurent les PM2.5 qui en fait les comptent.
Les quoi? Les
particules fines.
Merci beaucoup.
Les PM2.5, c'est comme ça qu'on dit quand on...
Mais moi,
je vais me la jouer dans les dîners, les PM2.5.
T'as calculé ton niveau PM2.5, chérie?
Alors, les PM2.5, pour expliquer, sont des particules fines qui font moins de 2,5 microns. Alors, ça ne doit pas tellement parler, mais c'est 20 fois plus petit qu'un cheveu.
Et ouais. Donc, c'est avec des lasers? Comment ça marche?
Alors, c'est une...
C'est pas la guerre des étoiles, dans les rues de Paris.
C'est la diffractométrie laser, ça fait tout de suite bien dans les dîners. Donc, c'est en fait, on fait une lumière laser qui compte le nombre de particules, parce que chaque particule qui passe devant le faisceau laser coupe le faisceau, et on peut avoir vraiment très rapidement le nombre de particules qui passent et qui correspondent à l'environnement de la voiture.
Donc, il faut imaginer que c'est 400 véhicules, hein, c'est ça?
400 véhicules
tous les jours.
Mais c'est avec, unique au monde, il n'y a pas d'autres équivalents.
Leur laser quadrille, donc toute la ville.
Toute la ville, hein. Oui. On fait à peu près, grosso modo, 5000 km à l'intérieur de Paris tous les jours.
Et vous arrivez à faire toutes les rues comme ça?
Oh, il y a quelques rues qui sont moins visitées que d'autres, ouais. Mais on arrive quand même à avoir une précision et surtout on s'est aperçu que la pollution était très hétérogène dans Paris. Il y a des quartiers qui sont surexposés, des quartiers qui sont sous-exposés. Et en fait, c'est justement le 17 septembre qu'on a fait cette première cartographie. Mm-hmm. Après 2 ans de tracking continu dans les rues de Paris, on s'est aperçu notamment qu'il y avait des phénomènes de formation de pollution secondaire. Je rentre pas dans les détails, c'est un peu compliqué, mais en fait, ça veut dire que il faut toujours regarder dans le sens du vent. Une partie de la pollution du périphérique sud, notamment les véhicules diesel qui émettent beaucoup de dioxyde d'azote, vont se transformer en rencontrant tous les gaz qui sont au-dessus d'une ville, de la rive gauche, et vont former rive droite une pollution secondaire. Donc en fait, la rive droite...
C'est le cas dans les deux sens, non?
Alors oui, mais comme le vent dominant, 70% des vents, c'est du sud-ouest-nord-est, c'est effectivement la double peine pour la partie quart nord-est de Paris. Vous avez parlé de Marseille tout à l'heure, il faut toujours regarder le sens du vent. C'est-à-dire en fait, les bateaux, quels qu'ils soient, ne sont pas un problème tant que vous avez des vents de terre. De toute façon, ce fioul lourd, il faut bien en faire quelque chose. Donc, tant qu'ils sont au large et qu'il y a un vent de terre, c'est pas un problème. Là, le problème se pose, c'est quand il y a un vent de mer qui rabat ces fumées. Et nos amis de Rouen savent de quoi on parle. Mmh. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le sens du vent, à ce moment-là, la pollution secondaire s'installe. Et ce que vous remarquez à Marseille, on va bientôt déployer 300 voitures également à Marseille. Ce que vous remarquez à Marseille, c'est qu'en fait, quand il y a un vent de mer, il y a combinaison de la pollution de la ville avec la pollution maritime, et c'est à ce moment-là que les choses se compliquent.
Et pour les Lillois aussi.
Et pour les Lillois aussi, qui ont en plus une triple peine, j'allais dire, parce qu'en fait, ils ont effectivement l'influence de Rotterdam, qui est on a vu ça parce qu'en fait, on s'aperçoit.
Grand port industriel.
On s'aperçoit par exemple que Tourcoing est plus pollué que Lille, parce que Tourcoing est plus proche de Rotterdam, et quand vous avez le sens du vent notamment en présence d'anticyclones, qui fait que la pollution de Rotterdam vient
sur l'île.
Voilà. Et bien voilà. Il faut toujours regarder le
sondage. On regrette pas de vous avoir invité, dites donc, d'enfer grâce
à
vous.
On a découvert ça un petit peu par hasard. C'est avec le CNRS qu'on a beaucoup travaillé parce qu'ils ont effectivement un capteur de pollution au ballon Generali qui est dans le parc Ambré-Citroën. Et en fait, ils se sont aperçus qu'ils avaient vraiment que de la pollution primaire. Ils ne mesuraient pas la pollution secondaire. Et c'est là qu'on s'est aperçu aussi que cette pollution secondaire apparaissait quand le vent était en dessous de 5 km/h. Parce que, en fait, ça correspond à la vitesse de déplacement et de formation de la pollution secondaire. Dès que le vent est au-dessus de 10 km/h, vous pouvez partir faire un jogging, il n'y a aucun problème. En fait, pour savoir, il suffirait d'installer un anémomètre chez soi et de regarder la vitesse du vent et vous savez s'il faut courir ou pas.
Mais justement, par rapport à ça, vous avez dit que les voitures tournaient 24 heures sur 24. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des moments qui sont plus propices pour aller se balader Est-ce qu'au milieu de la nuit,
Non,
mais ou est-ce que c'est le contraire, que ça se trouve, c'est plus pollué la nuit, je sais pas.
Alors, il y a des phénomènes de pollution la nuit, il faut surtout pas de jogger quand il fait nuit, parce que là effectivement vous avez l'inverse de la photosynthèse, donc les arbres rejettent le CO2 qu'ils n'ont pas pu absorber, donc rejettent aussi des particules fines. Donc évitez absolument le jogging la nuit, il faut le faire de jour et de préférence pas pendant les heures de pointe. Ne joguez jamais le long d'un axe de circulation, c'est de la folie.
Ouais. Et choisir ses quartiers alors, si je comprends bien.
Et choisir ses quartiers aussi, pas toujours, c'est-à-dire en fait quand vous avez un vent circulant qui est un vent, ce qu'on appelle un vent dispersif, tous les quartiers ont une pollution qui est tout à fait acceptable. Et d'ailleurs, Paris, il faut rappeler que Paris est la première densité de population du monde occidental et la sixième du monde. Donc c'est une densité incroyable, c'est une densité de 22 000 habitants au kilomètre carré. C'est juste devant Pékin, devant Shanghai, c'est juste impressionnant. Donc ça marche pas si mal que ça quand même pour une ville qui est aussi dense. Et en fait, quand vous avez un vent dispersif, il n'y a aucun problème. Ouais. Paris est une ville qui est relativement peu polluée. Mais par contre, dès que vous passez dans un environnement très stable, là, la situation se complique.
Est-ce qu'on respire mieux quand même avec tous les efforts là qui sont faits de justement mettre un peu la voiture à l'écart et de redonner la ville aux piétons?
Incontestablement, il y a des progrès.
Ça se voit vraiment sur les particules.
Il y a des progrès très nets. Il y a une inquiétude qui est que
Vous travaillez pas pour la mairie de Paris, hein?
Non, vous nous dites la vérité là.
Non,
par contre, j'avoue que j'admire que nous ayons quand même une maire qui ait pris le risque de se faire taper par tout le monde dessus, parce que il y a eu un vrai Hidalgo bashing. Elle a quand même eu le courage de faire la lutte.
Oui, bon, bref, c'est pas ça. Nous intéresse.
C'est pas ça la question.
Mais on s'en fiche d'un Hidalgo, mais le fait de respirer mieux.
Ce que je veux dire, c'est qu'on respire globalement mieux, de mieux en mieux. Il y a simplement une inquiétude qui est que les diesels les plus récents sont aussi probablement les plus polluants. Il y a une étude de l'ICCT qui est en train de se faire, parce que quand ils démarrent à froid, ils émettent à la fois du NO2 et du NH3 qui n'ont pas réagi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de voir avec l'ICCT. L'ICCT, c'est la grosse ONG qui est basée aux États-Unis et qui est à l'origine du Dieselgate avec l'affaire Volkswagen. Donc là, on est en train de découvrir qu'en fait, il faut vraiment aller le plus vite possible vers des villes sans diesel. Ce qui ne veut pas dire que le diesel soit mauvais sur autoroute, mais qu'il ne faut pas qu'il soit dans les centres urbains.
Et pour comprendre quand même l'intérêt de mesurer, évidemment, ça informe, mais c'est quoi l'intérêt derrière? Parce que là, vous êtes en train de dire aux gens qui habitent en ville, finalement, faut pas aller courir, faut pas aller se promener, parce que de toute façon, on est pollué. Donc, on le sait, merci. À quoi ça sert derrière? Ça sert à changer les politiques?
Non, on est en train de dire qu'en temps normal, tout se passe bien. C'est simplement qu'une quarantaine de fois par an, il faut faire un peu plus attention. Et ça veut dire aussi que si l'on sait précisément, grâce à cette cartographie, quelles sont les villes les rues qui ont par exemple ce qu'on appelle des effets canyons avec accumulation de pollution, à ce moment-là, on peut mettre des espaces verts, on peut mettre aussi des espaces d'air et faire qu'on arrange localement la situation.
Donc on va voir votre carte, parce que c'est le but, hein, elle est sur Internet, pour vérifier 24-24 l'état de la pollution. Le site pour en savoir plus?
Paris.fr, tout bêtement.
Voilà, et c'est Pollutrack, c'est l'instrument justement qui permet de vérifier que tout va pour le mieux. En tout
et cas, on n'oublie pas quand même que le plus pollué, visiblement, c'est l'habitacle de la voiture, en fait. C'est même pas l'extérieur. Hein.
Ça, c'est aussi notre grande surprise.
Il faut aérer les voitures.
Quoi qu'il arrive, vous serez toujours mieux en dehors du véhicule que dans le véhicule.
Ouais. Ouvrez les fenêtres. Merci beaucoup, Éric Poincelet, d'être venu.
Marcher, je sais pas.
Mais pas du vélo de nuit, en plus, ça devient compliqué quand même.
C'est compliqué.
Allez, tous aux abris. Merci beaucoup. Merci Camille.
À demain
pour une nouvelle Terre au Carré.